France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et aujourd'hui, mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Eh oui, au lendemain des obsèques du pape François, la question est maintenant de savoir qui sera le prochain pape. Ce sera, comme tous les souverains pontifes, un personnage politique. Les papes font de la politique. C'est le thème d'Enquête de politique en ce premier dimanche sans pape. Le pape est mort, un nouveau pape est appelé à régner. À régner, quel drôle de nom pour un pape. Pourquoi pas Libellule ou Papillon ? Si un nouveau pape est appelé à régner, comme le dit si joliment Jacques Prévert, c'est qu'il s'agit d'un souverain, d'une sommité politique. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Quelle est la part du message politique dans le message des papes ? Depuis que les souverains pontifes ne sont plus à la tête que d'un état symbolique sur quelques hectares, qu'ils n'ont plus d'armée, plus de puissance régalienne, leur mission évangélique et spirituelle comporte une part, pas toujours assumée, de politique pure. Le pape et politique. S'il en fallait encore une preuve, on a quand même passé toute cette semaine sur les plateaux de télé, les studios de radio ou dans les tribunes des journaux à se demander si François était de gauche, progressiste, conservateur, les deux. Et chacun s'interroge plus sur la couleur politique du prochain pape que sur sa nationalité ou sur son ordre d'origine. Utiliser le terme papisme, puisqu'ici on aime les ismes, pour évoquer le rôle idéologique du Vatican peut prêter à confusion, j'en conviens. Puisqu'il n'y a pas de doctrine politique claire, il y a bien une doctrine de l'Église, mais ça c'est autre chose. Et puis le mot papisme a une acception courante qui remonte au 18e, 19e siècle. C'est un anathème utilisé par les protestants et les orthodoxes pour désigner les catholiques soumis à l'autorité de Rome. Mais le pape, figure tutélaire du catholicisme, première religion au monde, a du pouvoir sur les consciences et influence d'une certaine façon la marche des affaires publiques. Quelle est la nature et l'histoire de cette part politique des papes ? C'est ce que nous allons tenter de déterminer avec nos trois invités. Un peu avant 19h, nous irons à la rencontre de Yuna Rivalin, journaliste à La Croix, pour parler de l'enquête que le quotidien catholique a publiée sur le pédigré de ces quelques milliers de jeunes adultes qui ont, cette année, décidé de se faire baptiser. Mais avant cela, en studio, nous sommes avec Christine Pedotti, journaliste à Témoignages Chrétiens, hebdomadaire plutôt marqué à gauche, et autrice de Autopsie d'un système pour en finir vraiment avec les abus dans l'Église chez Albin Michel, et de Jean-Paul II, L'ombre des saints avec Anthony Favier chez Albin Michel également. Et avec nous aussi Antoine-Marie Isoard, journaliste à Famille Chrétienne, hebdomadaire plutôt conservateur. Christine Pedotti et Antoine-Marie Isoard, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, les papes et la politique, la papauté et la politique, c'est une longue histoire. La papauté, Rome a organisé la vie sociale et politique des Européens pendant de longs siècles. Et puis, il y a un moment, Christine Pedotti, où finalement, le pape, les catholiques ont perdu le pouvoir, non pas sur les âmes, mais sur l'organisation sociale et politique.
Oui, 1870.
1870. Hein. Et là, Christine Pedotti, une autre phase politique.
Tout à fait. Le pape perd toutes ses emprises territoriales, sauf les 54 hectares du Vatican. Et simultanément, puisqu'il y a un concile, qui est le concile de Vatican I, il y a la proclamation de l'infaillibilité pontificale. Donc, d'une certaine façon, le pape perd toutes ses emprises territoriales et il devient empereur de la vérité.
Et donc, ça veut dire que c'est finalement le ministère de la parole ?
Oui, tout à fait. Il n'a plus que la parole. Et donc, en fait, depuis lors, les papes, alors on connaît la célèbre phrase de Staline, hein, combien de divisions,
divisions.
Bah finalement c'est pas tant des divisions, c'est la puissance de sa parole, et les papes successifs, on va pouvoir les juger à la puissance de leur parole, voire parfois de leur silence.
Alors il commente l'actualité, c'est ça ?
Il commente l'actualité, pas seulement, en fait, l'idée c'est de donner des pistes pour être chrétien, catholique, dans un monde complexe. En plus, c'est le monde contemporain, hein, c'est le monde de la modernité. Alors, la papauté, elle va parfois être très réticente face à la modernité, souvent, et parfois pas. Donc, elle va, en fait, entrer dans le débat avec le monde, jusqu'au Concile de Vatican II, hein, où le monde entre dans les encycliques du Concile de Vatican II.
Alors, restons un instant en 1870, c'est quand même une période, on est en pleine... au début de la révolution industrielle en Europe, il y a eu des révolutions, les États-nations se sont installés, les pouvoirs à peu près partout sont des pouvoirs profanes, même si la religion compte encore. Quel est le pape à l'époque et quelle est sa position sur cette évolution ?
Alors, le pape de la vérité, c'est Pie IX. Hein,
empereur de la vérité.
Empereur de la vérité, tout à fait. En fait, il va faire une chose très singulière, alors qu'il n'y est pas contraint, il va s'enfermer au Vatican. Et il ne va plus que parler du haut du Vatican.
Et quelles sont ses premières prises de position ?
A priori, il devient, c'est là qu'il est paradoxal, comme quoi les traumatismes, ça peut changer les hommes, il devient très anti-moderniste. Il devient très opposé, alors que c'était un pape assez progressiste, si on peut employer ces catégories-là, avant l'épisode de 1870, la peur. Alors, il y a des peurs quasi séculaires, hein, du sac de Rome. Donc là, la peur le transforme et il devient très opposé au monde moderne.
Mais au monde moderne, d'un point de vue industriel, parce qu'il pressent peut-être les ravages de l'industrialisation, ou il est rétif aux évolutions sociales qui
vont avec. Il est rétif à la démocratie, il est rétif... l'idée, c'est que le pouvoir vient de Dieu. Hein, c'est on va avoir le syllabus, à l'époque, qui condamne les idées modernes. Ce qui est extraordinaire, c'est que sur les propositions qui sont condamnées dans le syllabus, je pense que Antoine-Marie et moi, qui sommes tous les deux catholiques, je pense qu'on en signe, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec au moins les trois quarts, peut-être même 80%. Ça veut dire qu'en fait, on serait en complète contravention avec les condamnations politiques, hein, pour l'essentiel, enfin, qui ont un lien entre le profane et le sacré, qui sont énoncées dans les condamnations du syllabus.
Alors, c'est le moment de présenter un peu plus avant idéologiquement nos deux invités, même si ce n'est pas le propos de l'émission, c'est une émission politique, bien sûr. Et on regarde aujourd'hui la papauté sous l'angle politique. Et vous, Christine Pedotti, qu'on vient d'entendre, vous êtes patronne de Témoignages Chrétiens, un journal marqué plutôt à gauche, les cathos de gauche. Et vous, Antoine-Marie Zohar, vous êtes à Famille Chrétienne. Plutôt conservatrice.
Plutôt classique, oui. Plutôt conservateur classique. Me va bien. Hein.
Oui,
si c'est bien entendu, ça me va bien.
Oui, il voilà. S'agit de
mais
conserver,
plutôt classique, voilà. Effectivement.
Ouais. Et donc, quand vous entendez Christine Pedotti parler de cette période et de l'évolution et du fait que vous, aujourd'hui, finalement, vous pourriez signer tout ce que refusait Pie IX en 1870.
Mais je pense que surtout que l'Église a pas mal évolué. Enfin, heureusement, elle l'a regardé avec les yeux du temps. Alors, quand Christine évoque tout à l'heure le Concile, effectivement, ça marque une forme de rupture aussi, d'une certaine façon, puisqu'il y a quand même ce Concile qui dit, eh bien, l'Église participe aux joies, aux espérances du monde. On entend Paul VI, sauf erreur, dire l'Église est experte en humanité.
Ça, c'est bien après.
Et
oui.
Ça, oui, mais enfin, ça reste à marque quand même sur l'engagement de l'Église au sein du monde, exactement ce que disait Christiane Pedotti tout à l'heure, d'une église qui est à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. Et moi, je pense à Rerum Novarum, oui, de Léon XIII. On est en 1890-91, oui, sauf erreur. Et là, le pape Léon XIII publie une encyclique, un document pontifical, donc magistériel, très important, sur la justice sociale et sur le travail en particulier. Disant aux salariés, ben voilà quels sont vos droits et vos devoirs. Disant aux patrons aussi quels sont vos droits et vos devoirs. Et ça, je pense que cette encyclique-là, elle est extrêmement importante.
Léon XIII, qui est le pape cité par ceux qui se revendiquent du catholicisme social.
Oui, tout à fait.
Le pape Pie IX est mort. Et Léon XIII le remplace. Dans l'encyclique Rerum Novarum, il définit pour la première fois l'attitude de l'Église devant le problème ouvrier. Et il cherche à donner une nouvelle orientation au rapport du catholicisme et de la République en France. Les chances d'une restauration vont s'amenuisant. À se lier plus longtemps à une cause perdue, l'Église risque de nuire à son influence. Et le 17 janvier 1892, Léon XIII accorde une interview à un journaliste français.
La République est une forme de gouvernement aussi légitime que les autres.
Alors, on avance un peu et on va parler de la Seconde Guerre mondiale et de l'absence de réaction de Pie XII, qui est vécu aujourd'hui peut-être comme une sorte de péché originel du catholicisme moderne. On écoute Pie XII, le 24 décembre 1942, Radio Vatican.
Ce vœu de paix, l'humanité le doit à des centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, par le seul fait de leur nationalité ou de leur race, ont été voués à la mort ou à une progressive extinction.
Voilà, c'est l'unique référence à la Shoah, au camp de concentration et à tous les drames de la guerre de 40. Ça sera beaucoup reproché à l'Église, Christine Pedotti.
Oui, parce qu'en fait, on est dans un temps historique de bascule. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on considère que les papes, leur sujet, c'est le catholicisme et c'est les catholiques. Et là, en fait, le pape et la papauté ne savent pas comment se placer, parce que les juifs sont pas sous leur protection. Et en fait, il va falloir un peu de temps pour que l'Église comprenne que c'est l'humanité son sujet, la totalité de l'humanité. En fait, c'était une vue très étroite. Tous les gens qui existaient étaient réputés être des catholiques ou devoir le devenir dans les siècles très très anciens.
Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de civilisation judéo-chrétienne. Oui. C'est un concept très nouveau et qui, à l'époque, n'existait pas du tout. Et les Juifs étaient plutôt vécus comme,
ah,
non pas des ennemis, mais enfin, il y avait un antisémitisme catholique.
Il y avait ce qu'on appelle un enseignement du mépris. Oui. Et il y a un anti-judaïsme chrétien et catholique très véhément. Et Pie XII en est encore imprégné. Mais c'est pas tellement ça, c'est qu'en fait ils ne se sentent pas légitimes pour parler de quelque chose qui n'est pas les catholiques. Alors que les papes d'après, ils vont considérer que l'humanité tout entière mérite leurs soins. Et d'ailleurs, le grand pape, après Pie XII, c'est Jean XXIII. Et Jean XXIII va écrire une encyclique qui s'appelle Pacem in Terris, qui la première fois, elle est adressée à tous les hommes et les femmes de bonne volonté, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient pas chrétiens.
Alors Jean XXIII, on le connaît à cause de Vatican II, et il est célèbre pour avoir finalement fait un virage, disons, progressiste de l'Église, de la liturgie, etc. Mais on n'a peut-être pas conscience du fait que c'est aussi un pape qui s'est ouvert au-delà du catholicisme. C'est ça aussi l'apport politique
oui,
de Jean XXIII.
Étonnamment, hein, ce petit bonhomme rondouillard qui avait longtemps été nonce en France, et finalement il était très passionné par la politique. Quand il était nonce en France, il était très intéressé par la politique française. Et il avait été très frappé par le sort des Juifs quand il était en poste dans les années de guerre. Et il a à cœur l'humanité tout entière. Alors, on ignore souvent le rôle qu'il a joué en octobre 62, au moment du grand affrontement entre Russes et Américains qui nous met au bord de la Troisième Guerre mondiale au moment des missiles de Cuba. Et le pape, à ce moment-là, tente de régler ce problème et semble-t-il, a été un grand facilitateur.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Nous supplions tous les gouvernants qu'ils fassent tout ce qui est en eux pour sauver la paix. Ils éviteront ainsi au monde les horreurs d'une guerre.
Voilà, c'était le pape Jean XXIII au moment de la crise de Cuba en 1962. Nous sommes toujours avec Christine Pedotti de Témoignages chrétiens et Antoine-Marie Isoard de Famille chrétienne et nous parlons du catholicisme politique. Antoine-Marie Isoard, vous vouliez revenir sur Pie XII.
Non, mais j'apporterai deux nuances. Christine, je suis complètement Pedotti. D'accord avec ce qu'a dit Christine. J'apporte juste deux nuances en fait. La première, c'est Pie XII effectivement a eu très peu, vous avez dit une, je crois qu'il y en a plutôt trois, interventions au cours de son pontificat. Relative à la Shoah, il y a cette effectivement grande discrétion, on va dire prudence excessive, avec effectivement cette question de savoir si l'Église n'est pas effectivement juste en charge des catholiques. Et ça, je le rejoins complètement. Mais je crains que effectivement, on l'ait vu aussi avec le pontificat de François. À certains égards, quand il s'est agi, on en parlera certainement tout à l'heure, mais de parler de l'Ukraine. Ouais. Ça, c'est juste un premier pont. Et l'autre, c'est de dire quand même que, pour la vérité historique, Pie XII lui-même a choisi de sauver un certain nombre de Juifs tout à fait discrètement, en les accueillant, les hébergeant, entre autres, dans la résidence d'été de Castel Gandolfo, au sud de Rome, qui est la résidence d'été des papes. Et il eût été impossible que le pape dise quoi que ce soit à ce moment-là.
Alors, c'était un vieux débat entre les catholiques plutôt conservateurs et les catholiques.
Non, mais ça, c'est
plutôt...
historique.
Oui, c'est
je
historique,
nie pas les silences,
oui. Oui,
hein,
sûr,
on va être tout à fait d'accord.
On va pas réouvrir tout ça, mais c'était bien d'entendre aussi votre version. On a aussi dans nos archives écouté une intervention de Paul VI qui défend la position de Pie XII. C'était en 1964, donc quand même longtemps après. Écoutez.
Notre grand prédécesseur Pie XII l'affirma avec force au cœur du dernier conflit mondial et tout le monde sait ce qu'il a fait pour la défense et le salut de tous ceux qui étaient dans l'épreuve sans aucune distinction. Et pourtant, on a voulu jeter des soupçons et même des accusations contre la mémoire de ce grand pontife. Rien de plus injuste.
Bon, voilà, Paul VI dans un numéro un peu d'équilibriste, c'était à Jérusalem en 1964. Christine Pedotti, Paul VI, c'est le pape qui sort du Vatican.
Oui, il sort du Vatican, il fait des voyages à l'étranger.
Tout à l'heure, vous nous avez dit, 1870, le pape reste dans ses 54 hectares. Oui. Voilà, maintenant
là,
on sort.
Et alors, parmi ces voyages, il y a effectivement un voyage en Israël très important où il rencontre le patriarche orthodoxe Athénagoras. Et puis surtout, il y a un acte formidable, c'est qu'il va à l'ONU. Et on voit le personnage blanc du pape se détacher sur le marbre vert de la tribune de l'ONU.
Image célèbre.
Il a un grand discours. Et c'est une chose qu'on sait peu, mais ce voyage extrêmement rapide, ça dure 30 heures, il fait partie du Concile de Vatican II. Il est inscrit dans les actes du Concile de Vatican II. Et donc là, si on se pose la question du poids politique d'un pape, ben, on a effectivement un pape qui parle à la Hola de l'ONU avec tous les chefs d'État qui sont là et qui l'écoutent.
Antoine-Marie Izoard.
Mais effectivement, Paul VI, il va aller en Ouganda, il va aller en Inde, il va aller en Colombie, il va aller en Asie.
Avec des messages qui ne sont pas simplement religieux, c'est la paix.
Ah ben non, parce qu'on dit toujours un voyage apostolique, parce qu'effectivement, c'est le voyage du successeur de Pierre, mais on ne part pas en voyage sans être invité à la fois par les églises locales et par le chef de l'État. Et Dieu sait si on a vu au cours du pontificat de François, Emmanuel Macron, entre autres, invité à plusieurs reprises François et tombé sur un os.
Il y a un pape, Jean-Paul II, Antoine-Marie Izoard, qui lui, c'est plus simplement le ministère de la parole, il pèse sur le cours du monde et notamment sur le sort du communisme.
Déjà, c'est plus un Italien. Donc ça change tout. On a un pape qui arrive, non pas du bout du monde comme Bergoglio,
mais du monde communiste.
Mais du monde communiste, un pape qui sort du régime de Jaruzelski et qui lui dit ces mots incroyables au monde en octobre 78, le jour de sa messe d'installation.
Non abbiate paura.
N'ayez pas peur.
Aprite.
Ouvrez.
Anzi, spalancate le porte a Christ.
Ouvrez toutes grandes les portes du Christ.
I confini degli stati,
ouvrez les frontières des États,
i sistemi economici,
les systèmes économiques politici. Et politiques.
Non abbiate paura.
N'ayez pas peur.
Alors, que veut dire ce « n'ayez pas peur » Antoine-Marie Izoard ?
Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais je sais que moi, il résonne des années plus tard comme une parole prophétique. C'est peu de le dire, mais la peur, et encore aujourd'hui, elle domine le monde, la peur de tout, la peur de l'autre, de l'étranger, la peur de la différence.
C'est un instrument politique,
et même, donc, c'est effectivement, de fait, d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que plusieurs responsables politiques, y compris dans notre pays, en France, ont utilisé cette phrase du n'ayez pas peur. Alors, je crois qu'il y a Jean-Marie Le Pen qui a tenté le coup, Marine Le Pen aussi, mais
oui,
pas que.
Devenu
on
un
l'a
poncif,
entendu, on l'a entendu, oui, un souverain, un poncif, oui. On l'a entendu à gauche comme à droite, dans une période où, effectivement, on agite les peurs. Et ça a été le marqueur de combien, je crois que Jean-Paul II est allé 9 fois dans son pays, la Pologne, sauf erreur, c'est-à-dire 1 ou 2 fois de plus qu'en France. C'est vraiment un pontife qui a beaucoup visité la France aussi.
Et, voilà,
et il a changé la face de la Pologne et de l'Est.
On dit que c'est lui qui a enlevé les premières briques du mur de Berlin. Ouais. Pendant le pontificat de Jean-Paul II, s'est épanoui ce qu'on a appelé la théologie de la libération, qui est un mouvement politique important, né en Amérique du Sud, qui est un peu à l'opposé politiquement de ce que représentait Jean-Paul II. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui s'est passé et quel était le rapport entre Jean-Paul II et la théologie de la libération?
Alors, la théologie de la libération, elle naît plutôt avant. D'ailleurs, il y a un grand texte de Paul VI qui permet de l'appuyer, qui est Populorum Progressio. Et puis, c'est l'idée qu'effectivement, il y a une forme de libération politique et spirituelle qui va de pair. Alors, souvent sont reprises les images de la libération du peuple hébreu en Égypte, qui habite les mythes chrétiens. Et donc, en fait, ce sont des théologies qui sont à la fois pour les pauvres, il y a une préférence pour les pauvres qui est énoncée de façon extrêmement claire, et effectivement une lutte contre les grands pouvoirs politiques et économiques, en Amérique du Sud en particulier.
Il y a la violence mère, la violence numéro 1, ce sont les injustices qui existent partout.
Don Elder Camara, en 1970.
Des petits groupes de privilégiés dont la richesse est maintenue sur la misère des millions de concitoyens, maintenus dans une situation sous-humaine. Après, ces injustices qui sont la violence mère, la violence numéro un, elles attirent, elles appellent la réaction des opprimés. Ça, c'est la violence numéro D. Alors, on a ce péril de tomber dans une spirale de violence. C'est évident que les riches, que les gouvernements sont toujours plus forts. Ils peuvent nous écraser. Il n'y a que la violence des pacifiques qu'ils ne peuvent pas écraser. D'être là, au milieu du peuple, dénoncer les injustices, d'encourager la promotion humaine, si cela veut dire politique, alors j'accepte volontiers l'accusation.
Christine Pedotti, en luttant contre le communisme, Jean-Paul II lutte contre l'autoritarisme politique, une dictature, mais finalement, il abandonne un peu de fait le combat pour les pauvres.
Je pense que ce combat contre le communisme qui l'a conduit à abaisser la capacité, à condamner très largement cette théologie de la libération, a probablement porté préjudice à la présence catholique en Amérique du Sud, où aujourd'hui on voit que les mouvements évangéliques et les mouvements athées sont puissants, hein, puisqu'en fait il y a une forme
de résurgence évidemment des sectes évangéliques.
Oui, tout à fait. Et donc le catholicisme a pris un grand coup. C'est une sorte de contre-coup, parce que pour Jean-Paul II, le communisme c'est l'horreur. Donc en fait tous ces mouvements qui parlent de libération du peuple par lui-même, etc., il pense que c'est du communisme, et il a eu, on peut dire, des méthodes de répression réelles sur le mouvement de la théologie de la libération.
On a vu avec vous, Christine Pedotti, que finalement, la question sociale avait tiraillé le pontificat de Jean-Paul II, avec la lutte contre le communisme d'un côté, et puis la fin de la théologie de la libération de l'autre côté. On a l'impression, avec Benoît XVI, on va directement à Benoît XVI maintenant, on a l'impression que finalement la question sociale, la pauvreté n'est plus trop le sujet central, c'est plutôt la famille et l'organisation de la société. Écoutez, le pape Benoît XVI, on fait un saut au temporel, le 14 septembre 2008.
Le couple et la famille affrontent aujourd'hui de vraies bourrasques. Depuis plusieurs décennies, des lois ont relativisé en différents pays sa nature. Souvent, elles cherchent plus à s'adapter aux mœurs et aux revendications de personnes et de groupes particuliers qu'à promouvoir le bien commun. L'union stable d'un homme et d'une femme, ordonnée à la construction de bonheur terrestre grâce à la naissance d'enfants donnés par Dieu, n'est plus dans l'esprit de certains le modèle auquel l'engagement conjugal se réfère. De plus, la famille est aussi la cellule vivante de l'Église. Plus la famille sera imprégnée de l'esprit et des valeurs de l'Évangile, plus l'Église elle-même en sera enrichie et répondra mieux à ses vocations.
Antoine-Marie Zohar, la famille, ça devient le message principal des papes, la cellule originelle de la société.
Ça l'était déjà beaucoup sous Jean-Paul II, hein. Ça l'était énormément sous Jean-Paul II, hein. Alors avec des questionnements, mais aujourd'hui, mais elle va développer toute une théologie du couple, de la famille, de l'amour, voilà. Moi, ce que je vois là dans ce discours qu'on vient d'entendre au Bernardin, qui est un discours extrêmement fort quand Benoît XVI vient à Paris en 2008, c'est que c'est un discours en fait qui dit au-delà de la famille, mais la famille en particulier, que Benoît XVI, Ratzinger, n'oublions pas qu'il était le préfet de la doctrine de la foi sous Jean-Paul II. Donc c'est celui qui va être l'artisan avec Jean-Paul II de la question de la lutte ou du combat contre la théologie de la libération. Donc on raccroche les wagons de ce qu'on a dit tout à l'heure avec Christine Pedotti. Mais en fait, c'est l'angoisse d'un pape européen, probablement, d'autres l'ont dit que moi, le dernier pape européen, au sens stricto sensu, et puis le dernier pape à avoir vécu le concile, enfin, de la disparition de la foi dans la société, qui sans l'admettre, en tout cas la déplore, et essaie de trouver des solutions, et en particulier à cette époque-là, donc il y a des rencontres avec les politiques en France qui sont assez mémorables, et entre autres à cette époque-là, la proposition d'une... Le pape salue la saine laïcité à la française, et l'encouragement d'une laïcité où l'Église et le pouvoir peuvent travailler ensemble. Vous êtes... On préparait cette émission il y a quelques temps, et vous me parliez des ismes. Vous étiez, vous, en recherche de ces ismes. Eh bien, les ismes...
On est
l'hédonisme, c'est la grande angoisse de Benoît XVI et de Ratzinger. C'est l'hédonisme, le consumérisme, le relativisme. Voilà, il n'a eu de cesse, lui, de réfléchir sur ces questions-là. Et plus que de faire de la politique, parce que je crois qu'on peut dire globalement, en gros, hein,
bah,
comme
il fait de la morale, plutôt.
qu'il a fait très peu de politique en soi, mais qu'il s'est intéressé au sens politique, au sens de la politique. Il y a des textes très célèbres de Benoît XVI, justement, sur l'engagement des chrétiens en politique, qui ont fait beaucoup de polémiques. Christine, c'est ça comme moi. Chaque fois qu'on a une élection en France, on ressort les fameux points et valeurs non négociables d'un texte de 2002, je crois, sur l'engagement et le comportement des catholiques et en politique, pour savoir si, effectivement, comment on peut choisir le bon candidat. Bon, on s'aperçoit que, finalement, on arrive à choisir juste le moindre mal. C'est déjà le minimum. Mais c'est vrai que ça a marqué beaucoup. C'est un pape qui, lui, ne va pas forcément faire de la politique. C'est pas son truc. Enfin, on est face à un théologien.
Ne faisant pas de la politique, il est finalement très conservateur. Christine Pedotti, vous dites dans votre livre que les quatre grandes caractéristiques du clergé catholique sont hiérarchique, masculin, célibataire et sacré. Alors, ça crée quand même quelque chose de structurel, de systémique, comme on dit aujourd'hui.
Oui, c'est un poids systémique, un poids puissant, et évidemment, ça se heurte aux valeurs contemporaines, dans lesquelles on a de la diversité, des femmes, dans lesquelles les hiérarchies ont réfléchi à la façon dont les pouvoirs ont des contre-pouvoirs, alors que quand on a un système hiérarchique comme le système catholique aujourd'hui, le sacré, il descend du haut, il descend vers le bas, voilà. Et ça remonte jamais.
Chaque pape est l'héritier de Pierre, qui est le continuateur de Jésus.
Tout à fait. Ça traîne vraiment dans le catholicisme. Donc tout ça rigidifie, et certainement Benoît XVI a été le restaurateur de ça, parce qu'en fait, il a pensé, comme Jean-Paul II, hein, parce que c'est, effectivement, je suis d'accord, c'est la figure pensante du pontificat de Jean-Paul II. Donc il y a une vraie continuité entre les deux. Et en fait,
mais c'est simplement...
il réarme l'Église devant le monde.
Mais c'est simplement du conservatisme, de la peur du progrès, ou c'est une angoisse de l'individualisme aussi?
Je pense qu'il y a une vraie peur de la décadence. Moi, quand j'entends les paroles de Benoît XVI aux Bernardins, aujourd'hui, j'ai des échos de ce que je peux entendre dans le discours de J.D. Vance aujourd'hui à Munich, ou de ce que je peux entendre de Poutine, ou du patriarche Kirill, etc. Cette espèce d'angoisse d'une décadence de l'Occident, parce que les valeurs familiales, les valeurs du couple, les valeurs de la famille ne sont plus tenues. Et je me dis, mais en fait, c'était les prémices, étaient là. Elles étaient là en 2008 dans ce discours. Et en fait, c'est un discours politique, paradoxalement.
Vous reconnaissez, Antoine-Marie Izoard, que c'est un discours politique, un discours conservateur, un discours peut-être même réac?
On ne va pas dire le contraire. En revanche, j'ai toujours du mal à classer un pape à gauche ou à droite. Vous avez eu la gentillesse de nous classer avec Christine l'un plus
vos
à
journaux,
gauche
vos journaux.
Et l'un plus à droite. En revanche, avec les papes, j'ai beaucoup plus de mal. Enfin, je veux dire, prenons un tout petit peu de recul. On va évidemment aller sur le pontificat de François, ce pontificat qui a secoué, qui a bousculé l'Église.
Allons-y.
Mais impossible de dire que François serait... Alors, bien sûr qu'il a des...
Ça dépend des sujets.
Ouais, exactement. Mais je veux dire, c'est totalement évangélique. On va juste rappeler un instant les paroles de François, à la limite même de la brutalité, sur la question de l'avortement, sur la question de, je dis, la brutalité à l'égard de femmes qui auraient avorté, de femmes qui se seraient retrouvées en contraintes d'avorter. Effectivement, le pape dit, c'est quasiment être un tueur à gages que d'avorter.
Vous le trouvez trop brutal, vous ?
Je trouve ça assez violent, et je pense que Benoît XVI...
Depuis famille chrétienne, bien sûr.
Non, mais je trouve ça assez violent d'un point de vue... à entendre, c'est extrêmement difficile. Et c'est assez étonnant, mais c'est dans la personnalité aussi de François, qui était un homme assez rude, dans toutes ses positions d'ailleurs. Et donc finalement, on va reparler évidemment des migrants, mais il y a un discours qui est, je pense que d'une certaine façon, François rétablit la barre en disant, le discours évangélique, il est ni de droite ni de gauche, et il y a des parties, quand on lit l'évangile, qui peuvent être considérées comme conservatrices et d'autres comme particulièrement progressistes. J'ai du mal à enfermer, en tout cas au moins François, dans un dilemme droite-gauche.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes toujours avec Christine Pedotti de Témoignages chrétiens et Antoine-Marie Zohar de Famille chrétienne et nous sommes en quête de papisme ou en tout cas de politique dans la papauté. On va écouter le pape François sur l'homosexualité et après on va essayer de voir avec vous ce qui est de droite, ce qui est de gauche chez le pape François.
Si une personne est gay et cherche le Seigneur, fait preuve de bonne volonté. Qui suis-je pour la juger? Le catéchisme de l'Église catholique l'explique de manière très belle. Mais il dit, attendez un peu, il dit, nous ne devons pas marginaliser ces personnes. Celles-ci doivent être intégrées dans la société.
Christine Pedotti, sur le sujet de l'homosexualité, c'est quand même la grande nouveauté du pape François.
Oui, c'est très étonnant, hein, parce que finalement, il a plus fait avancer les choses sur la question de l'homosexualité que sur celle des femmes. Le système est plus bloqué sur les femmes. Parce qu'il y a cette parole-là, et puis il a écrit un texte qui a secoué beaucoup de gens dans l'Église, s'appelle « Fiducia supplicans », en disant qu'on pouvait bénir des couples, je dirais, non alignés, donc des hommes...
Il faut rappeler quand même que sous le pontificat de Benoît XVI, un ambassadeur de France au Vatican avait été refusé par le Vatican... parce que réputé, entre guillemets, homosexuel.
Oui, tout à fait. Donc c'était l'abomination de la désolation, et tout d'un coup, le pape François a vraiment fait bouger les choses sur cette question-là. Est-ce que c'est une question de droite ou une question de gauche? C'est une
disons progressiste, en tout cas.
Oui, sans doute. C'est vrai que moi, quand je regarde le bilan du côté des femmes, j'ai des raisons de ne pas être satisfaite. Je ne sais pas non plus si c'est une question de droite ou une question de gauche. C'est quand même une question, d'abord, de toute l'humanité.
C'est-à-dire que rien n'a bougé sur les femmes dans l'Église.
Sur les femmes dans l'Église. Si on fait une forme de bilan, la seule chose à laquelle a consenti le pape François, c'est à admettre que la place des femmes, c'était une vraie question. Que c'était pas une question de décoration, mais qu'il y avait un vrai sujet. Alors, il y a remédié en partie en nommant quelques femmes à des postes de responsabilité, mais le système qu'on décrivait, hiérarchique, masculin, célibataire, sacré, ce système-là, il a pas bougé d'un iota. À tel point que quand, enfin, il fait un truc incroyable, il nomme une femme, Simone Brambilla, à la tête d'un dicastère, donc d'un ministère, elle est numéro un. Eh bien, on est obligé de lui mettre un numéro 1 bis à côté, qui est un cardinal, parce que les femmes, structurellement dans le catholicisme, il y a des choses qu'elles sont considérées comme pas capables de faire.
Alors, Antoine-Marie Izoar, il y a un domaine sur lequel aussi on pourrait considérer que le pape est de gauche, ou en tout cas progressiste, c'est sur l'immigration. Il a des propos qui hérissent le poil de tous les présidents, de tous les chefs d'État et de tous les leaders conservateurs.
Ah, il a plus que des propos. Et je pense que c'est en ça que ce pontificat est extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est assez à l'image de ce qu'a pu faire Jean-Paul II dans ses voyages historiques ou visite d'une synagogue, etc. C'est que François choisit comme premier déplacement de son pontificat de se rendre au bout de 2-3 mois sur l'île de Lesbos, donc à quelques kilomètres à peine des côtes africaines, pour dénoncer la mondialisation de l'indifférence et dire stop, on ne peut plus faire de la Méditerranée un cimetière. Il faut retenir que François, il est fils, petit-fils d'immigrés italiens, qu'il y a eu une forme de malentendu en Argentine. Il faut reconnaître qu'il y a eu une forme de malentendu, je pense, avec une partie du monde, parce qu'il a eu, effectivement, il a fait le choix. Je fais un petit tour en arrière. Quand vous avez fait entendre tout à l'heure un son de François sur les personnes homosexuelles, c'est en revenant, j'étais dans cet avion-là, en revenant de Rio, au JMJ de Rio en 2013, en juillet, quelques semaines après Lampedusa, de fait. Je vous ai dit Lesbos, mais c'était Lampedusa. La première visite de François, je réalise mon erreur. Il est allé ensuite à Lesbos, plutôt proche de la Grèce, à deux reprises. Mais quand François est dans l'avion retour de Rio, c'est la première interview avec les journalistes. Il nous dit d'ailleurs, pour la petite histoire, moi je parle pas aux journalistes, et puis au retour, il nous parle pendant 1h15. J'ai eu l'occasion de lui dire, mais dites donc, vous avez peur de rien. Et là, le pape nous dit... Quand quelqu'un, un Américain, pour faire le buzz, l'interroge sur l'avortement et sur la question des homosexuels, il dit « mais c'est bon, la position de l'Église, on la connaît ». la position de l'Église, là-dessus, on la connaît. Et le pape choisit, pendant plusieurs années du début de son pontificat, de ne pas trop parler de ces questions-là. Et là, je trouve qu'il y a un mouvement qui s'est... un basculement, parce qu'il a dû comprendre ou juger que c'était nécessaire. Petit à petit, il va un peu moins parler des migrants, même s'il l'a fait avec de très nombreuses fois, et en parlant et des droits et des devoirs des migrants, et des droits et des devoirs des États en la matière. Et ça, ça n'a pas toujours été entendu, d'ailleurs, à droite, hein, chez les conservateurs, que le pape disait aussi quels étaient les devoirs et des migrants, des pays de départ.
Chacun fait son tri.
Exactement, c'est un peu le risque de choisir ce qui va ou ce qui ne va pas dans la parole papale. Il y a quelque chose qui a été un élément d'incompréhension, et c'est pour ça que j'avais Lesbos en tête tout à l'heure quand j'en parlais, c'est qu'effectivement, quand le pape va en 2016 à Lesbos, il revient avec une douzaine de migrants dans son avion, ce qui est un geste incroyable. Un geste incroyable. Mais il y a une petite erreur diplomatique ou politique, c'est qu'il se trouve que les seuls migrants qu'il peut prendre avec lui sont musulmans. Alors, pourquoi pas ? Et c'était nécessaire, il voulait montrer que c'était possible et que c'était important de pouvoir accueillir des familles, sauf qu'ils sont musulmans. Alors évidemment, ça coince un tout petit peu. Alors, ils sont musulmans pour des raisons toutes simples, c'est que en fait, les chrétiens qui étaient là n'avaient pas de papier. Et donc, là, il a été impossible de les faire partir. Avec l'avion du pape. Donc, il accueille au Vatican une à deux familles, je crois, de musulmans, dont on n'a plus de nouvelles aujourd'hui, mais qui ont dû, je me doute, trouver un logement, un travail, ainsi de suite. Et l'incompréhension vient de là, et l'incompréhension, elle est aussi autour du fait que on est en 2016, on sort des attentats du Bataclan quelques mois plus tôt, quelques mois plus tard, c'est un prêtre catholique, le père Jacques Hamel, qui va être tué dans son église. Et là, vous avez toute une partie des catholiques qui comprennent pas. C'est une incompréhension. Je condamne pas du tout, au contraire. Je dis juste, il y a une incompréhension. Que je regrette, parce que je crois que le pape a eu là, une fois encore, je parlais de prophète en parlant de Jean-Paul II, je pense que là aussi, il a eu des gestes prophétiques. Il faudrait dire qu'il a aussi eu des gestes prophétiques en s'occupant des pauvres, d'une église pour les pauvres, en s'occupant de l'écologie, on en parlera peut-être si on a le temps.
A-t-il eu une parole prophétique quand il a prononcé ça ?
Celui qui pense à son peuple doit avoir le courage de lever le drapeau blanc et négocier. Aujourd'hui, il est possible de négocier avec l'aide des puissances internationales. Il y en a. Quand tu vois que tu es vaincu, il faut avoir le courage de négocier. Mais si tu continues ainsi, combien y aura-t-il de morts ? Et ce sera pire encore. Il faut négocier à temps.
Alors, Christine Pedotti, c'est une parole du pape qui date d'avril 2024 et qui s'adresse finalement à Zelensky. On pourrait la qualifier de paix capitularde.
Oui, 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 et ça résonne de façon d'autant plus effrayante aujourd'hui, où on s'est dit que ça pourrait être du Trump dans le texte. Hein. À l'époque, ça a fait scandale.
Oui.
Vraiment. De toute façon... Il faut dire que la position du pape François sur l'Ukraine, elle n'est pas claire du début à la fin. Ceci parce qu'en fait, il voulait absolument une réconciliation religieuse avec l'orthodoxie, avec le patriarche Kirill, qu'il avait rencontré, me semble-t-il, à Cuba.
Oui,
de façon historique. Voilà, tout à fait. Et il voulait poursuivre, et en fait... Alors, je
le
pense
patriarche
que
russe qui s'oppose
voilà,
d'ailleurs
qui,
au patriarche
en fait,
ukrainien.
Oui, alors, qu'il a pris pour un chef religieux alors que c'est juste un oligarque.
Oui.
Point. Je ne sais pas s'il a encore
c'est
réalisé...
Un oligarque youtubeur.
Ou un aumônier des armées, de fait.
Oui. Oui, mais vraiment un oligarque. Enfin, c'est un oligarque parmi d'autres, soumis à Poutine, pas du tout une personnalité spirituelle. Et quand il dit ça, de toute façon, sur l'Ukraine... Il y a un problème, c'est qu'il est, pacifiste, il est radicalement pacifiste, le pape François. Donc, il veut pas la guerre, il veut pas la guerre, il veut pas la guerre. Oui, il veut pas la guerre, mais d'accord, mais quand on est agressé, il faut répondre. Donc là, c'est quand même, je pense que quand on fera, faut laisser le temps retomber, mais quand on fera le bilan sur la question de l'Ukraine, il y aura des choses à dire.
Alors finalement, plus globalement, j'ai envie de vous demander, avant de finir cette émission, Christine Pedotti et Antoine-Marie Zohar, on a vu les prises de position des papes au fil de ces dernières décennies. Est-ce que c'est si important que ça ? Et est-ce que les chrétiens veulent finalement que leur pape, que la hiérarchie catholique, leur donne des indications politiques, un prêt-à-penser politique ? Est-ce qu'ils le veulent vraiment, Antoine-Marie Zohar ? Ou alors est-ce qu'ils choisissent justement, ils font leur panier dans ce qui leur plaît ?
Je pense que ça c'est facile. Je pense que ça dépend du pape qui règne et que selon que l'on est catholique plus conservateur ou plus progressiste, on regarde ça avec pas mal d'hésitation. Mais l'avantage de l'Église, c'est qu'elle est sur le temps long.
Qu'elle est toujours en retard aussi.
Alors, elle peut être en retard, mais elle peut être en avance sur certains dossiers.
Oui, c'est vrai.
Elle est sur le temps long, c'est-à-dire
l'écologie,
que...
On n'a pas parlé d'écologie,
mais François... En suivant ce qu'avait fait Benoît XVI, que certains qualifiaient de pape vert d'ailleurs. Alors après, François évidemment est devenu le pape très vert, avec cette encyclique incroyable, très politique là aussi,
publiée
juste avant la COP21, avec un accord à l'époque avec Ségolène Royal, si je ne dis pas de bêtises, pour essayer de faire en sorte que le document sorte avant. Et le pape François, il n'y a pas très longtemps de ça non plus, a publié un document sur l'intelligence artificielle avant qu'il y ait un sommet à Paris sur le sujet. Donc il y a un enjeu politique et je pense que l'Église continue effectivement, à se soucier, il est important de se soucier de ce qui se passe dans le monde.
Alors Antoine-Marie Isoard et Christine Pedotti, vous êtes deux grands spécialistes de sujet, donc tout le monde doit vous poser cette question maintenant que François est mort et que vous êtes reconnus comme étant deux grands spécialistes. Tout le monde doit vous poser cette question. Est-ce que le prochain pape sera progressiste ou conservateur, Christine Pedotti?
Alors, moi, je joue pas au loto avec le conclave. Hein.
C'est le Saint-Esprit qui décide, officiellement.
C'est le Saint-Esprit qui décide. Donc, le tirage, moi, franchement, bien malin, qui peut dire ce qui sortira du conclave dans la fumée blanche. Mais alors, en revanche, je vais dire une chose, c'est que sur ce coup-là, je me sens assez papiste. C'est-à-dire que avoir une grande autorité morale, religieuse et politique, qui est une voix qui résonne dans le monde, bah quand même, un pape, a priori, c'est quand même assez évangélique. Bon, je veux dire, effectivement, si c'est un abominable conservateur, il me restera que mes yeux pour pleurer. Mais je pense que dans le monde tel qu'il est, dans le monde dangereux,
Sur la pauvreté, l'écologie, la paix.
Même si j'ai des choses à reprocher à ce que François a dit sur l'Ukraine. Je veux dire, il y a peu d'autorité morale, d'autorité de voix qui peuvent avoir une portée mondiale.
Alors, le mot papiste n'a plus cours parce que les papistes, c'était la façon dont les protestants qualifiaient le pouvoir catholique.
Et ben, Thomas, on me traite tellement de protestante que moi, je suis prête à enfiler la tunique du papisme.
D'accord. Antoine-Marie Isoard, est-ce que vous avez un pronostic? Est-ce que le prochain pape sera conservateur?
Je me risquerai pas. Je pense qu'il faut revenir aussi sur les grands coups de François. Je pense à Cuba, avec une réconciliation entre Raoul Castro et Barack Obama. Je pense au Soudan du Sud. Je pense à tous ces voyages que François a fait en Irak et compagnie. Et ce choix des périphéries plutôt que des grands pays catholiques. Je pense que le pape qui arrive pourra pas complètement rompre avec ça. Et je pense que c'est important. Et j'espère que, d'une certaine façon, en ressuscitant un peu Benoît XVI, les catholiques continueront à être des minorités créatives dans le monde. Parce qu'effectivement, ils sont assez minoritaires. Mais je crois qu'ils ont encore un message à passer.
Bon, en tout cas, s'il y a un pari qu'on est certain de gagner, hein, on peut considérer que le prochain pape sera un homme. Merci beaucoup, Christine Pedotti.
Et un catholique.
Merci beaucoup, Antoine-Marie Isoard.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
C'était vendredi dernier, fin d'après-midi, avant qu'elle ne rejoigne Rome pour son journal La Croix. Je retrouve la journaliste Yuna Rivalin dans un café du 20e arrondissement à Paris et nous évoquons l'enquête menée sur 1000 jeunes adultes catéchumènes, des nouveaux baptisés à Pâques, sur 10 000, un chiffre en hausse. Qui sont ces jeunes ?
C'est des jeunes qui ont grandi dans une société qui est largement sécularisée, matérialiste, où il n'y a pas eu souvent de transmission familiale de la foi. Donc en fait, ils se retrouvent un petit peu perdus dans une forme de société liquide, en se demandant « mais moi, qui suis-je ?» Voilà. Et en fait, là, ils se heurtent souvent à l'islam, où leurs amis, souvent musulmans, eux, sont très zélés dans la façon de parler de leur foi. Et donc, eux se définissent en miroir vis-à-vis de l'islam, en se disant « mais moi, je ne suis pas musulman, mais je suis qui ?» Et en fait, ça a construit une forme de jeunesse de catéchumènes qui sont très affirmés dans leur foi et qui peut parfois se traduire par des thèmes qui sont traditionnellement rattachés à droite.
Puisque vous nous expliquez que c'est en miroir un islam bien implanté dans une certaine jeunesse, est-ce que c'est un repli identitaire en opposition à cet islam ou est-ce que c'est simplement un effet miroir? Tiens, eux, ils ont des réponses aux questions que je me pose. Quelles sont les réponses que je peux trouver dans mon univers culturel?
Alors, c'est plus ce que vous disiez sur la phase miroir, en se disant, ils me posent des questions, parce que leurs amis, souvent, c'est une transmission horizontale, en fait, de la foi. Donc, c'est les jeunes qui se parlent entre eux de religion très facilement, beaucoup plus facilement que la génération des millennials, par exemple. Donc, ils vont être questionné par les musulmans sur « mais toi, du coup, t'es quoi, t'es chrétien, c'est quoi ta foi, en quoi tu crois, c'est quoi la Trinité, etc. » Et ça va les amener à se poser des questions. En revanche, dans l'étude qu'on a faite, on leur a demandé un peu quelle était l'origine de leur parcours spirituel. Et il y a quand même 5% qui nous ont dit que le premier facteur de leur questionnement spirituel, c'était de redécouvrir les racines chrétiennes de la France, qui est un thème qui peut être traditionnellement quand même rattaché à droite.
5%, c'est pas énorme.
5%, c'est pas énorme, mais en revanche, si on prend ce qu'on leur avait demandé, quelle était la première chose qui les ramenait à la foi, la deuxième chose et la troisième chose, le fait de redécouvrir les racines chrétiennes de la France, c'était 21% au total, donc un jeune sur cinq. Il faut partir aussi du constat que ces jeunes-là, ils vivent aussi dans une société où, en fait, les questions d'avortement, par exemple, sont complètement acceptées. Il y a juste un repli au niveau de l'Église catholique. Donc je pense pas que la transmission de la catholicité soit allée à ce stade-là. En revanche, nous ce qu'on leur a demandé, c'est est-ce que l'Église est marginalisée vis-à-vis de ses positions sur les questions de sexualité ? Et un jeune sur deux trouvait que c'était le cas.
Est-ce que vous avez l'impression que cette jeunesse qui s'est baptisée va amener l'Église dans son ensemble à être plus moderne, à accepter plus les évolutions sociétales, ou au contraire à aller plutôt vers la tradition, comme on a l'impression que l'Église le veut.
Alors,
l'Église institutionnelle, en tout cas.
Alors, c'est difficile de répondre à la question, parce qu'il y a vraiment des jeunes qui viennent de tous les horizons. Il peut y avoir, notamment via la transmission de la foi par les réseaux sociaux, il peut y avoir souvent un risque de dérive rigoriste, parce qu'on voit que sur les réseaux, notamment TikTok, il y a un peu à boire et à manger.
La femme chrétienne est celle qui a compris que le secret de la féminité repose dans la transmission de la vie.
L'abbé Ruffray, influenceur catholique et conservateur, star de TikTok.
Il y a plusieurs façons de transmettre la vie, mais bien sûr, d'abord par la maternité ou par plusieurs autres formes de fécondité. Et donc je pense qu'une femme chrétienne, c'est une femme qui s'épanouit en réalisant à l'extérieur ce don de soi-même qui est un don qui communique la vie.
Il y a beaucoup de jeunes qui se calquent par rapport à l'islam. On voit le retour du voile chrétien, on voit le retour du carême comme un jeûne strict. Et donc les jeunes se retrouvent à aller voir les paroisses en disant « mais j'ai pas compris, on m'a dit que je pouvais pas manger tous les midis ». Et les accompagnateurs des catéchumènes sont là « oh là là, non, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ça le carême ». Donc je pense que sur les réseaux sociaux et la transmission de la foi sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a un risque rigoriste qui vient aussi d'un besoin de rite, en fait, dans une société liquide.
De rite ou d'autorité ?
Les deux. Je pense que c'est aussi pour ça que les jeunes vont vers l'Église catholique, qui a un système hiérarchique très fort, parce que il peut y avoir l'impression d'être complètement perdu quand il n'y a pas de transmission familiale. Là, il y a quelques années encore, la grand-mère faisait souvent office de la personne qui les ramenait à la foi. Là, aujourd'hui, la grand-mère, c'est juste 25%, donc ça a beaucoup baissé.
Et les réseaux sociaux ?
Et les réseaux sociaux, alors un catéchumène interrogé sur 5 dit avoir eu dans son parcours de foi un impact des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc ça reste quand même important.
Merci Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment.
Alors sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup un groupe qui s'appelle Glorious, qui a l'air d'avoir du succès. On les voit dans les zéniths, au milieu d'une foule. Ça a de l'importance, ce genre de choses ?
Bah, Glorious, ils sont là depuis 20 ans, donc ça fait 20 ans qu'ils ont construit aussi un public qui s'est transmis de génération en génération. Ils ont une vision très ouverte de l'Église, d'une Église qui est ouverte sur l'extérieur, qui est en dialogue avec le monde qui les entoure, et ça se voit notamment par le style musical qu'ils ont choisi, qui est très pop en fait.
Voilà, c'était Enquête de politique au lendemain de l'enterrement de François et dans l'attente du prochain pape. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur une notion protéiforme, le progressisme. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert, archives sonores Franck Olivard. À la technique ce soir, Rémi Sistiaga et Julien Thévenot. Et à la programmation musicale, Thierry Dupin. Tous les numéros d'Enquête de politique sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain, juste après le journal de 18h. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.